Diggers, l'émission des radios Ferrarock. What Happened to the Beach, le troisième album du britannique Declan McKenna, est une des découvertes de la semaine. C'est Colin et Romain de la radio PFM à Arras qui nous plongent dans la pop anglaise de l'artiste. Deuxième partie d'émission, Marcus de Radioactive s'entretient avec le groupe Astral Baker pour nous parler de leur premier disque éponyme. Et c'est Max de RCV à Lille qui s'empare de la carte blanche cette semaine. À travers le livre de la salsa sorti aux éditions Alia, Max nous embarque à la découverte des musiques caribéennes. Chronique à retrouver en fin d'émission. Mais tout de suite, on rencontre l'artiste anglais Declan McKenna avec Colin et Romain de PFM.
Hello, c'est Colin et Romain de PFM à Arras, dans Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock. Cette semaine, on est avec Declan McKenna, qui nous parle de la sortie de son troisième album, What Happened to the Beach, qui vient de sortir, et dont est tiré Mulholland's Diner and Wine, que l'on vient d'écouter. Donc salut Declan, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et nous raconter rapidement ce qui occupe tes journées en ce moment?
Salut, je suis Declan McKenna et je viens de sortir mon troisième album, What Happened to the Beach, le 9 février. En ce moment, je fais la promo de l'album, je cours partout à travers l'Europe et pendant les semaines qui arrivent, je vais aussi faire quelques concerts au Royaume-Uni.
D'accord, et donc cet album, comment tu le décrirais à nos auditeurs ?
Ouais, c'est un album que j'ai enregistré avec le producteur Gianluca Buccellati. Il a été principalement enregistré à Los Angeles. Une grande partie des chansons sont nées dans ma chambre à Brighton ou à Londres où je vivais avant. Et c'est vraiment un disque plus intime d'une certaine manière que mes disques précédents. Il est plus digital aussi, aussi bien au niveau du son que de la manière de l'enregistrer, avec un côté psychédélique, mais tout en gardant la délicatesse de la pop. Donc ouais, ce disque, c'est un changement délibéré de ma part au niveau du son. C'est assez différent de ce que les gens pouvaient avoir l'habitude d'écouter de moi.
Et du coup, pourquoi t'as choisi d'aller enregistrer cet album en Californie ? T'avais besoin d'un nouveau départ, de changer d'air et d'aller voir ailleurs après les confinements ?
Ouais, je pense que j'avais le désir de m'éloigner de tout ça. Tu sais, de quitter le pays et travailler à fond sur l'album. Donc j'ai vraiment saisi la chance de le faire, parce que j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur différentes idées, et j'avais besoin de les assembler, de les réunir. Et tu sais, c'est vraiment une opportunité de pouvoir aller quelque part et de retrouver des amis avec qui tu vas pouvoir travailler un peu. Par exemple, je savais pas que Lucas voudrait produire l'album. Le plan, c'était juste d'avoir des sessions d'enregistrement ou d'écriture avec lui. Donc ouais, l'idée, c'était 2 mois d'échange pour revenir avec une idée de ce que l'album serait réellement. Et donc très vite, Lucas et moi, on est arrivés à une sorte de photo de ce à quoi ressemblerait l'album. Parce qu'il y avait déjà plusieurs chansons pas mal abouties et d'autres que l'on avait commencé à écrire à deux qui sonnaient vraiment bien et qui sont venues s'y ajouter. Et oui, je pense que ça faisait vraiment sens de partir là-bas. C'était vraiment une bonne excuse pour s'en aller ailleurs pour la première fois depuis un moment et me lancer dans la création d'un nouveau projet. Et c'était vraiment cool.
Ok. Et avec cet album, on dirait que tu fais un pas de côté avec des chansons plus simples, moins rock, un peu moins politiques. C'est dû à quoi ? C'est volontaire ou ça s'est fait comme ça, un peu par hasard, quand t'es parti en Californie ?
Oui, c'est un peu dû à ce nouvel environnement et le producteur m'a encouragé dans cette voie. Mais c'était déjà là avant que j'aille à LA. J'avais besoin d'essayer des choses plus personnelles, intimes, d'être plus libre, je suppose, d'écrire des trucs, des structures ou des intentions. Parce que faire de la musique, c'est vraiment un hobby qui peut t'emmener loin de tout, comme un moyen de s'évader et les thèmes abordés dans cet album accentuent encore plus ça. C'est une forme d'évasion, de libération par rapport à ce que les gens attendent de toi, ou des discours plus politiques ou sociaux que j'ai pu tenir auparavant.
Et travailler avec un producteur, c'est difficile quand on est un artiste ? Parce que j'imagine, ça veut dire lui faire confiance et l'autoriser à interférer dans ton processus de création.
Je pense vraiment, parce que j'ai déjà sorti 2 albums avant et que j'ai progressivement pris l'habitude de travailler avec pas mal de gens, que je suis très ouvert à l'idée de travailler avec des gens et de juste voir quand quelqu'un balance son idée, de voir la tournure que ça prendra. Parce que je pense que je suis à un moment où, dans ma carrière où je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, où je suis capable de dire si quelque chose ne me convient pas. Et c'est, je pense, du coup, pour ça que je suis à l'aise pour exprimer ce genre de choses. Et c'est ce qui me permet de laisser les autres proposer leurs idées et de voir où ça nous mènera. What's the point, my friend? I don't believe in nothing anymore. You tell me I don't relate to the kids no more. Now I feel like I'm letting them down. What's the point running?
Nothing, nothing. What's the point, Martin? Don't you be sad.
On est toujours avec Declan McKenna dans Dig Dig Diggers. Le morceau que l'on vient d'écouter, c'est Nothing Works sur son dernier album What Happened to the Beach. Et vu qu'il me semble que tu évoques ça dans cette chanson, est-ce que c'est parfois difficile de travailler avec un label ou une maison de disques ?
C'est pas la chose la plus évidente à gérer. Mais maintenant, j'ai suffisamment confiance en ma vision et c'est pourquoi l'album sonne comme ça. Et pourquoi j'ai pu avancer avec ma propre idée sans que cela n'interfère trop. Tu sais, parfois, quand tu repousses certaines limites ou que tu sors les gens de leurs habitudes ou de ce qui leur semble familier, les personnes des labels commencent un peu à s'inquiéter, c'est normal. Mais moi, je vois pas vraiment l'intérêt de travailler avec ce genre de crainte. Il faut juste laisser ça de côté et travailler sur tes compos, essayer d'être créatif. Parce que la meilleure manière d'être créatif, c'est d'aller sur un autre terrain. Donc oui, Nothing Works existe parce qu'il y a eu beaucoup de conversations, trop de conversations, à propos du fait qu'il aurait fallu que je retourne en arrière et que je fasse des chansons comme celles que j'avais déjà sorties. Mais pour moi, la réponse a été juste non. Je dois aller de l'avant et vraiment être créatif. Parce que moi, je crois en ce projet et que ce n'était pas juste un projet d'avant-garde. Mais qu'au contraire, il y a plein de choses que les gens vont aimer. Et moi, je suis dans cette approche-là. Je pense qu'on devrait se soucier de ce qui va créer de l'émulation plutôt que de ce qui a déjà été fait, parce que sinon, j'aurais l'impression de me répéter.
Du coup, j'ai vu que tu avais joué à l'Hyper Weekend Festival juste avant la sortie de l'album. C'était comment alors ? Tu as pu jouer des nouveaux morceaux ?
Ouais, c'était cool. C'était vraiment posé par rapport à mes concerts en tête d'affiche. Dans une sorte d'environnement très relax. Et oui, on a joué des nouveaux trucs. On a joué Wobble, qui est la première chanson de l'album et qui n'était pas encore sortie à ce moment-là. Et puis du coup, les singles et d'autres choses plus anciennes. C'était cool. Il y avait du monde. Et c'était une chouette expérience. C'était très tranquille. Une sorte de concert acoustique avec juste moi et ma guitariste, Isabelle. On a joué deux sets. C'était vraiment très cool, même si c'était pas évident, parce que ce genre de performances acoustiques sont très intimistes. Donc tu t'exposes beaucoup, parce qu'il n'y a pas tous les trucs qui sont là d'habitude quand tu joues les chansons avec le reste du groupe. Mais en même temps, c'est cool pour les gens de pouvoir voir des versions où tu peux plus te livrer.
Et donc tu me disais en début d'interview que tu commençais à tourner au Royaume-Uni en Europe. Donc c'est quoi le programme pour toi pour les prochaines semaines ou les prochains mois ? À côté de ces concerts, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'expérimenter ou des projets, des collaborations ?
Oui, là on a pas mal de concerts prévus au Royaume-Uni et en Europe. On jouera donc en France, à Bordeaux, à Rennes et à Lyon et à Paris pour la dernière date de la tournée en tête d'affiche. Cet été, on a déjà des festivals de prévus, mais je pense déjà retourner en studio, parce que j'ai déjà vraiment plein d'idées. J'ai envie de faire des collaborations, participer à des projets différents, parce que c'est plus inspirant que de rester concentré seulement sur une seule chose. Je vais aussi essayer de me mettre au DJing.
Cool comme programme. Comme on parlait de collaboration, je sais que tu aimes beaucoup ABBA, les Beatles ou Saint Vincent. Donc si jamais tu pouvais travailler avec l'artiste de ton choix sur un morceau ou un album, tu choisirais qui ?
C'est difficile à dire. J'aimerais peut-être bien travailler avec David Byrne des Talking Heads. Et j'adore l'album qu'il a fait avec Saint Vincent. Et je pense que ce serait une personne super intéressante avec qui être en studio. Durant toute sa carrière, il a eu des idées de fou. Donc ouais, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait.
Et j'ai une dernière question. C'est quoi ce truc avec le détecteur de métaux dans tes vidéos ou sur la pochette de l'album ? C'est une private joke, une référence à des paroles que j'aurais loupées, une métaphore ?
Ouais, ça peut être vu comme une métaphore. Je travaillais sur l'artwork avec deux de mes potes, Jake Passmore et Henry Pierce, qui a d'ailleurs pris la photo de la pochette de l'album. Et tu vois, quand tu travailles sur un album, tout le processus qu'il y a derrière, eh bien, on discutait d'idées pour l'artwork et l'un d'eux a proposé l'idée du détecteur de métaux. Parce que tu vois, quand tu crées un album, tu cherches un son. Ça peut prendre longtemps, parce que tu ne sais pas forcément où tu vas. Et le processus de création de l'album est un peu comme une quête. Et pour moi, ça s'est connecté avec l'idée du détecteur de métaux. Ça peut faire léger comme lien, mais c'est vraiment ça. La métaphore d'une recherche sans fin, où tu ne sais pas trop ce que tu cherches. C'est un bon rapprochement, je trouve.
C'était Declan McKenna pour Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferra Rock. Et pour conclure cette interview, le morceau qu'on écoute, c'est Sympathy, sur son album What Happened to the Beach, qui vient tout juste de sortir. D'Astral Baker ont fait leurs armes en travaillant avec des artistes tels que November Ultra, Woodkid, Pomme ou Revolver. Des artistes confirmés donc, qui se retrouvent à quatre pour se rappeler le plaisir adolescent de jouer de la musique. On retrouve le groupe en interview avec Marcus de Radioactive.
Un titre qui, je trouve, porte bien son nom. Bonjour à toutes et tous. Sur les radios de la Ferra Rock, on a le plaisir de recevoir Astral Bakers, enfin deux des membres de Astral Bakers, dont vous avez pu découvrir l'album tout au long de cette semaine. C'est Nicolas et Zoé qui sont avec nous. Bonjour. Un petit peu à distance, mais pas bien loin quand même, parce que vous êtes en Bretagne et on est en Bretagne nous-mêmes.
Ben oui, c'est un rendez-vous breton en fait.
Mais c'est un rendez-vous qui concerne toute la France. Un petit peu, à l'image de votre groupe Astral Bakers, j'ai envie de commencer par... est-ce qu'on peut commencer par le casting tout simplement du groupe? Parce que je crois que c'est placé ce groupe sous le signe de l'amitié, de l'admiration aussi mutuelle en termes de musique. Enfin, l'admiration, je ne sais pas, vous allez me le confirmer. Mais en tout cas, de l'amitié musicale, ça c'est sûr.
Ouais, carrément. Bah, on s'est tous rencontrés un peu à des moments différents, tous les quatre. Ça a commencé, Nico, tu racontes mieux que moi cette période, mais c'est en fait Nicolas et Théodora. Donc Théodora qui fait la basse et Nico la guitare. Surtout, on jouait un petit peu avec Ambroise de son nom de scène Sage.
Ouais.
Et puis voilà, et moi je connaissais déjà Théodora depuis un petit moment. Et Nico aussi, on s'était croisés. Et en fait, il y a eu une première envie de faire un projet ensemble, n'est-ce pas, Nico ?
Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que c'est né un petit peu sur cette dernière tournée de Sage, sur la tournée de son dernier album. Et avec Théodora, bah, comme disait Zoé, on a eu la chance de l'accompagner. Puis il s'est passé pas mal de trucs de musique assez, assez intense. Et en fait, à la fin de la tournée, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se quitter comme ça et que ce serait génial de monter un groupe. Et le groupe n'aurait pas été complet sans Zoé qui nous a rejoint tout de suite après pour la batterie.
Et puis vous avez tous les quatre quand même un sacré background musical. Tu parlais de Sage, tu parlais de Théodora. Alors Théodora, on la connaît par sa carrière solo notamment. Mais tous les deux, Zoé et Nicolas, vous n'êtes pas tout à fait des petits jeunes de la musique. Enfin, attention, vous n'êtes pas des vieux non plus. Hein. Faut pas, hein, c'est...
On est entre deux.
Allez, donnez-nous votre CV pendant qu'on y est.
Eh ben, mon CV... j'ai pas tout en tête, mais moi là en ce moment j'accompagne aussi Pomme, la chanteuse Pomme, bah, à la batterie, puis plein d'autres petites choses. Et puis avant j'ai joué avec je ne sais plus, les Hyphen Hyphen, les Naive Nubiters, Laura Ken aussi.
Des groupes qui n'ont pas tellement fonctionné, hein. Tout ça c'est des groupes qui n'ont pas tellement percé, hein.
Non, voilà, bah ouais, bah, je suis allée de groupe en groupe me former et faire plein de musiques différentes jusqu'à un peu savoir ce que je voulais, et surtout croiser le chemin de mes trois autres acolytes, voilà.
Très bien, Nicolas.
Alors moi c'est un peu comme Zoé, moi j'ai récemment, en fait là je viens de terminer une tournée avec November Ultra.
Très bien.
La tournée s'est terminée en décembre, et avant j'avais fait pas mal d'autres tournées aussi avec Dans le Désordre, Lucien Tunès, Pépite, Fishback, Kumi Solo, désolé, c'est un peu décousu, mais...
C'est très bien, et c'est très facile à identifier tous ces musiciennes et musiciens, parce que là encore, ce sont des artistes qui ont plutôt connu un beau chemin dans leur carrière, qui connaissent d'ailleurs toujours, pour certains ou certaines d'entre elles, un beau chemin dans leur carrière. Mais c'est important, finalement, ouais, que vous évoquiez toutes ces collaborations, parce que c'est aussi un plaisir de musicien. Moi, je l'ai senti comme ça, en tout cas, Astral Baker. Un musicien qui n'a pas besoin de se prouver qu'ils sont bons, je ne sais quoi, vous l'êtes, il n'y a pas de problème, mais vous avez eu envie de vous unir pour créer quelque chose de nouveau, et ça c'est plutôt chouette, quoi.
On avait avec des années d'expérience à la fois de, alors là c'est vrai qu'on parlait plutôt de scène pour les groupes qu'on a cités précédemment là avec Zoé, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'expérience de studio aussi, et que on a beaucoup fait des disques très produits parce qu'on fait beaucoup des disques très produits et qu'on a les moyens de le faire aujourd'hui et que c'est super. Et en même temps, en tant que musicien instrumentiste, on avait aussi quelque part un peu le fantasme de retourner à un truc beaucoup plus basique de musique live. Là, c'est le cas pour l'album. Par exemple, tout l'album est enregistré live, c'est-à-dire qu'on joue tous les quatre dans la même pièce.
Vous aimez bien ça, hein. Nicolas, excuse-moi, mais vous aimez bien vous retrouver à l'image des petites sessions que vous balancez sur le web, où on vous retrouve dans une voiture, on vous retrouve dans des endroits qui ne sont pas dédiés spécialement à la musique, et tout ça se fait naturellement. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de regard caméra, vous êtes bien concentré, tout ça. C'est un groupe de pop, tout simplement, quoi.
Bah oui, il y a un peu cette idée-là. En fait, c'est vraiment... C'est comme ça qu'on a commencé, c'est-à-dire qu'on a pris une batterie, trois guitares et puis des tout petits amplis, et on est parti en Normandie, pour changer un peu de la Bretagne, on est parti faire de la musique ensemble, et on était un peu dans notre cocon, et voilà, on était hors un peu du regard des autres, et puis et on avait envie de justement retourner à la base de la musique en groupe, qui est de se retrouver et d'essayer de faire sortir des idées comme si c'était la première fois en fait qu'on avait un groupe, et puis c'était assez c'est super de pouvoir juste penser à la musique et pas à ce qui va se passer ensuite. Et en fait, c'est pour ça qu'on a mis pas mal de temps à monter, voilà, à faire l'album, à trouver notre son aussi. On n'avait pas d'ingénieur du son quand on a fait l'album.
Ouais.
On a fait tout ça au studio d'Ambroise. Donc, en fait, on a essayé, réessayé jusqu'à avoir le son qu'on entendait dans notre tête, et ça fait qu'on est resté un peu en huis clos tous les quatre jusqu'à pouvoir avoir la matière et puis et le fil conducteur de l'album. Donc ça a vraiment commencé dans un petit cercle à tous les quatre, et on avait envie de reproduire ça un peu dans nos sessions filmées, etc., parce que c'est là où on se sent le mieux et là où on joue le mieux. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce son qui est organique et qui est justement pas produit de couches et de surcouches qui s'accumulent, parce qu'on veut vraiment être capable de jouer tout ce que les gens entendent en fait.
I don't remember, Astral Bakers à l'honneur cette semaine sur les radios de la Ferrarock. On a le plaisir d'avoir Zoé qui est à la batterie et Nicolas qui fait aussi de la guitare, si je ne m'abuse, dans les groupes Astral Bakers.
Exactement.
Au bout du fil. C'est un titre qui ne va pas tout à fait avec ce qu'on a dit avant, parce que vous nous avez raconté, en tout cas Zoé, tu nous as raconté à quel point c'est une rencontre, et que vous vous souvenez très bien de pourquoi Astral Bakers est né. il est chouette ce titre parce que je trouve qu'il représente pas mal de l'album. Ça part comme ça avec une pop, et puis finalement ça s'arrête, et puis il y a quand même quelques petites cassures de rythme, etc. Vous amusez tout simplement, les gars et filles, là. Non ?
Ouais, bah carrément. En fait, on a un peu un fonctionnement qui était rigolo, c'est qu'on a absolument rien maquetté en faisant cet album.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert un ordinateur avant d'enregistrer le disque. Et en fait, l'ordinateur, il nous a servi que de magnéto. En attendant, pour écrire, on a travaillé juste avec un téléphone qu'on posait au milieu de la pièce.
D'accord.
Et on jouait tous ensemble. Et puis, ça nous permettait d'avoir un petit mémo qu'on n'oublie pas non plus. Parce qu'on commençait à avoir quelques morceaux. Et en fait, en faisant comme ça, ça nous permettait aussi d'avoir un peu des petits accidents qui devenaient de temps en temps, qui étaient aussi des hasards heureux et qui nous ont permis de faire évoluer les morceaux un petit peu d'une façon qu'on n'aurait pas pu anticiper.
Ouais.
Voilà. Et en tout cas, qu'on n'aurait pas pu, sans doute pas fait évoluer comme ça si on avait commencé à maqueter dès le début. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'amuse pas mal.
Alors ce qui est paradoxal, c'est assez amusant ce que tu nous dis, Nicolas, parce que vous êtes aussi plutôt des personnes, au moins la moitié du groupe qui venait plutôt des musiques électroniques, en tout cas qui ont pas mal travaillé, je pense à Théodora notamment, mm-hmm. et puis Sage aussi. Là on sent que vous avez laissé de côté justement tout ce qui fait un petit peu, non pas l'esthétique des musiques électroniques, mais la manière de composer des musiques électroniques, etc. Là aussi, c'est presque, ça doit être reposant quand on revient aux fondamentaux comme vous l'avez fait.
Bah oui, y a, en fait, il y a ce côté organique qui nous plaisait vachement. Et en plus, on a tous commencé, en fait, étant ado, jeune ado, à jouer d'un instrument. Donc, moi, c'était la batterie. Nico a commencé avec une guitare dans sa chambre. Pareil pour Ambroise et Théodora. Et en fait, je pense que cette ère-là a été mise un peu en stand-by quand on est tous rentrés dans. Voilà, faire d'autres tournées de musique plus synthétique et ou à faire comme Théodora son projet vraiment très électro.
Ouais.
Et en fait, là, on avait tous cette même envie de revenir à nos influences vraiment de lycée qu'on avait tous en commun, tous et toutes en commun. Et je pense que ça a mûri assez longtemps dans nos esprits pour que ce soit le bon moment et ressortir tout ça synthétisé. Des années plus tard en autre chose, quoi.
Y compris en vidéo, hein, comme on le disait aussi tout à l'heure. Moi, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller les voir ces vidéos. C'est du bon feeling, tout simplement, et ça transpire à travers le web, et ça, c'est plutôt un petit luxe. On s'écoute quelques notes de Something New, ça vous va?
Carrément.
Ça marche. When I'm on the edge of burning down, every single breach of my life so far.
Something New, c'est le groupe Astral Bakers dont vous avez pu découvrir l'album tout au long de cette semaine. Un album que je n'ai même pas encore nommé, il s'appelle The Whole Story, ce qui là aussi est un petit contre-pied, je dirais, puisqu'on raconte toute l'histoire, une histoire qui est quand même relativement récente. C'est 10 titres hein, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ce très très bel album. Zoé et Nicolas sont avec nous, la moitié de ce groupe qui est assez paritaire, qui est complètement paritaire d'ailleurs, hein, parce que deux gars, deux filles hein, pour le coup.
Complètement, ouais.
Et ça c'est chouette ouais. aussi.
Ben oui, c'est un peu du hasard, mais le hasard fait bien les choses. C'est clair.
Alors, vous avez eu quelque chose d'un petit peu fondateur dans votre histoire récente, Astral Bakers, en tout cas Nico et Zoé, porte-parole pour ce coup-là. C'est que vous avez eu un vrai premier test grandeur nature. C'était, allez, on va citer une grande radio, néanmoins concurrente et amie, comme on dirait sur les autres. Vous avez joué à la maison de la radio pour un hyper week-end, pour une presta pratiquement en live direct. C'est quand même pas rien, ça.
Ah ouais, c'était intense. En fait, c'était une création dirigée par Sage,
yes.
Donc Ambroise, qui un des quatre du groupe, et en fait qui nous a proposé aux Astral Bakers de faire partie de cette création-là. Et nous, évidemment, à l'idée de jouer ensemble, on a foncé dedans. Et c'était une création. Qui était un hommage à Françoise Hardy avec énormément de morceaux de Françoise Hardy rejoués, réinterprétés par pas mal d'artistes différents. Et nous, on a essayé de donner une unité à tout ça dans la musique derrière pour accompagner ces super chansons.
Et puis c'est pas rien, ça vous ressemble un peu Françoise Hardy, parce que c'était quand même une grande dame, je disais, elle est toujours là d'ailleurs la Françoise, une grande dame de la pop et puis de la musique qui est respectée en Angleterre, je sais pas si les gens s'en rendent compte à quel point, ça a pas dû être si simple que ça de s'emparer de son œuvre.
Bah c'était, oui c'était pas évident, mais c'est vrai qu'elle a, elle a tellement de morceaux et puis en plus elle a traversé vraiment les époques. Donc il y a des productions qui sont ultra différentes d'un album à l'autre. Et en fait, ce qui nous a aidé, c'est justement d'avoir ce groupe ensemble. C'est que on s'est pas posé plus de questions que ça. C'est qu'on s'est dit que voilà, si on devait faire cette création tous les quatre, et ben on allait juste essayer d'amener notre son. Et c'est de ça dont parle Nico, je pense, c'est que l'unité, en fait, bah, c'était le son qu'on avait créé, par exemple, pour faire notre album et qu'on a pu un peu redistiller à l'intérieur des morceaux de Françoise Hardy pour pouvoir avoir une espèce de continuité sur 1h20 de concert, là où à chaque morceau, il y avait un chanteur, une chanteuse différente. Et du coup, ça a permis d'avoir un peu un fil conducteur de son et justement de garder nos quatre instruments qui pouvaient exprimer les différentes époques, les différentes personnalités qui chantent en gardant un son qui soit cohérent quoi, tout du long.
Et Zoé, tu fais allusion à ce côté, on y faisait allusion tout à l'heure tous les deux, à ce côté un peu international. C'est vrai qu'Astelbaker, c'est quand même taillé pour l'international. Hein. D'ailleurs, je crois que, alors il y a plein de dates qui se rajoutent les unes aux autres en France, mais ça aussi, ça doit être un début de ce groupe, non?
Clairement, déjà dans nos influences musicales, on a toujours été porté sur beaucoup de musique outre-Atlantique. Il y a plein de groupes américains qui nous ont grave influencés, récents ou anciens, mais c'est vrai que notre rêve à tous les quatre, ce serait vraiment d'aller défendre l'album et les albums futurs à l'étranger, parce qu'on a vraiment... On a vraiment cette envie, on a l'impression qu'il y aurait une certaine cohérence à ça, et même si on est trop contents de pouvoir développer le projet en France, on a vraiment envie que ce soit le plus étendu possible comme couverture. Quoi.
Exactement, et puis des belles dates, hein, quoi, je le disais tout à l'heure, notamment au Printemps de Bourges le 25 avril, et puis d'autres belles dates comme à Annecy, au Festival Orpiste, ça sera le 29 février. Au moment où on se parle, Zoé, Nicolas, je crois que la release party a été d'ores et déjà effectuée, comment ça s'est passé?
Ah, c'était super, on a fait un concert un peu particulier, tout acoustique.
Très bien.
Même que des guitares, et Zoé avait une guitare aussi, du coup. Et on a réadapté nos morceaux pour pouvoir les jouer à quatre, comme ça, donc avec que des guitares acoustiques, et une basse acoustique pour Théodora, évidemment.
Zoé, tu tapais sur la guitare, c'est ça?
J'ai un peu tapé sur la guitare, mais je lui ai pas fait que du mal. J'ai aussi fait des accords et des notes. En fait, on voulait vraiment avoir un format qui soit assez intimiste, et puis on s'est dit que c'était cool de pouvoir s'adapter et de pouvoir accompagner un peu les morceaux en fonction de l'endroit où on se trouve et des possibilités qu'on a aussi de sonoriser, etc. Donc,
en tout cas, voilà. Je vous le disais, vous qui nous écoutez, un groupe heureux, un groupe qui respire le bonheur, et c'est vraiment, je vous le dis comme je le pense, ça s'appelle Astral Bakers, donc des boulangers de l'espace, des boulangers astro qui nous enchantent avec leur merveilleuse nourriture. L'album, c'est The Wall Story. Allez, faites un peu mon travail, c'est qui le label, comment on fait pour vous suivre, etc.
Alors, vous pouvez nous retrouver déjà sur Instagram, c'est là qu'on publie pas mal de petites choses. On est sur TikTok également, mais c'est pas non plus le média le plus Astral Bakers friendly, mais on y travaille. Et puis sinon l'album est sorti sur le label Sage Music, qui est le label d'Ambroise, donc ça reste entre nous, et une fois de plus on est ravis de ça.
Eh ben, en tout cas, vous nous ravissez avec cet album. On espère vous voir très vite au max, parce que j'ai bien l'impression que la scène, vous aimez bien y être. On espère vous voir au maximum sur les scènes. Et puis, on recommande ce Roll Story paru chez Astral Bakers, un groupe qui est diffusé à la fois sur les radios nationales et sur la Ferrarock. C'est forcément un bon groupe. Merci Zoé, merci Nicolas.
Merci.
Merci Marcus.
Passionné par la culture salsa, Max, de la radio RCV à Lille, nous raconte cette musique à travers le manuscrit culte, le livre de la salsa.
Ah! salsa. Deux syllabes qui claquent et qui résument l'un des courants musicaux les plus populaires qu'ait engendré le XXe siècle. En effet, comme pour le jazz, le punk, le rock, la techno ou le rap, il a bien fallu trouver un nom à ce phénomène musical et social majeur. La sauce, la salsa, c'est le liant qui donne toute sa saveur au plat. Salsa, c'est aussi une interjection que l'on se lance entre musiciens lorsque l'on joue intensément et que la magie de la musicalité opère. Témoin privilégié de l'essor de cette cuisine musicale basée à New York, le journaliste César Miguel Rondon fait partie de cette communauté latine cosmopolite de la grosse pomme de l'époque. Une sorte de cocotte minute sociale prête à exploser, et dans laquelle bouillonnent les influences musicales venues de la diaspora de toutes les Caraïbes, en provenance du Venezuela, comme lui, de la Colombie mais aussi du Panama, de l'île de Porto Rico ou de Cuba qui s'était alors repliée sur elle-même, non sans avoir livré à l'Amérique quelques-uns de ses brillants artistes et de ses courants musicaux. Tous ces rejetons de la Caraïbe ont fini par faire leur trou chez l'oncle Sam et affirmer une culture hybride, une créolité d'un genre nouveau. C'est le coup de force de ce bouquin. Il affirme comme première exigence de ne pas séparer la musique de son terroir. Son alpha et son oméga, c'est le quartier, le barrio, qui est le seul juge de ce qui est bon et de ce qui mérite de connaître le succès. Ce livre est une grande fresque, aussi musicale que sociale, deux aspects aussi imbriqués que le sont deux partenaires de danse un soir au Chita Night Club. L'auteur du livre de la salsa dépeint des musiques empreintes de la violence de la rue, de l'immédiateté de la vie à New York et des sons du paysage urbain, comme dans ce titre Fuego en el 23 de la Sonora Ponceña, hommage aux pompiers, los bomberos, qui déboulent dans la 23e rue à toute berzingue, dans leur véhicule aux sirènes qui gueulent, pour éteindre le quartier en flammes. Bien sûr, il est légitime de se demander quel est l'ouvrage qui peut se présumer à lui seul livre de la salsa. Comme s'il s'agissait d'une encyclopédie ou une somme exacte de savoir au sujet d'un courant musical aussi riche. Il faut souligner que César Miguel Rondon entreprit très tôt de raconter l'histoire qui était en train de s'écrire sous ses yeux. Il a côtoyé, interviewé et documenté tous les cadors de cette scène artistique new-yorkaine dès les années 60 et tout au long des années 70 et 80. À une époque où New York était une terre d'aventure, pas encore livrée à la gentrification et aux promoteurs immobiliers, c'était, dit-on, un vrai coupe-gorge. Il a réussi à raconter par quelle alchimie ce courant artistique a éclos. César Miguel Rondón rend compte des origines de la salsa, de ses inspirateurs, qui donnaient le la à la musica latina en terre yankee dès les années 50. À commencer par le joueur de conga d'origine cubaine et innovateur de son instrument, Tata Guinness, qui sera ensuite suivi par le jeune Ray Barreto dans le rôle d'inventeur de rythme et de grand frappeur, ou encore le timbalero d'origine puertoricaine et chef de grands orchestres Tito Puente, au style mambo fugueux. Tito Puente a longtemps forcé le respect des plus jeunes. Puis il faut passer en revue les activistes de la jeune scène musicale du début des années 70, ceux qui ont forgé le son rugueux, incisif et efficace de la salsa, et qui a fini par résonner dans toute l'Amérique puis dans le monde entier. À commencer par ceux qui se sont lancés dans l'aventure d'un label discographique qui a fait grand bruit, le label Fania. Ces producteurs de concerts et de disques ont compris que quelque chose émergeait alors des bas-fonds du barrio latino. Ce label, Fania, est devenu la référence de cette période, sorte d'écurie modèle qui réunissait les plus belles stars. Le label Fania a amalgamé en son sein les musiciens expérimentés et les nouveaux talents adoubés par la rue. Le label Fania, fer de lance de la salsa, a été créé à l'origine par le flûtiste et chef d'orchestre Johnny Pacheco et par l'homme d'affaires mélomane Jerry Masucci. Il faut lire comme ils ont développé leur affaire en distribuant eux-mêmes les disques de leur label dans le music shop de la ville, en la sillonnant avec leur bagnole comme des artisans, à la force de leur passion. Dans ce livre, prenons aussi la mesure des innovateurs qui ont façonné et arrangé le style percussif et cuivré de référence. Ce livre détaille une galerie de prodiges des arrangements, de la composition et de la scène. Le premier d'entre eux est Edil Palmieri, le défricheur qui a placé les trombones et la conga au premier plan des arrangements. Puis survient Willy Colon, un audacieux gosse des quartiers, et son double indissociable et haut en couleur, Hector Lavoe. Ils deviennent à eux seuls les catalyseurs du label Fania et des tornades sur les plus belles scènes de New York dans les années 70. Il faut bien mesurer que César Miguel Rondon a écrit l'ouvrage de référence, ni plus ni moins, au sujet de la salsa. Ce livre de la salsa est cependant resté étranger au lectorat francophone pendant longtemps. Jusqu'à présent, il fallait le lire dans le texte, et pourtant la France est une terre d'accueil et d'amour pour toutes les musiques latines. Alors les francophones bénéficient désormais d'une traduction réalisée par Maxime Bisson, traducteur qui a travaillé en étroite collaboration avec l'auteur de ce livre. Voilà ce qui explique la grande qualité d'écriture que révèle cette parution aux éditions Alia. Parmi les grands avantages de ce bouquin, les passionnés trouveront foule de précisions et de témoignages de première main. Une lecture fluide et vivante, comme si notre œil suivait une caméra embarquée dans une époque aussi folle que lointaine. Quant aux néophytes, ils trouveront de multiples pistes pour comprendre et trouver dans la salsa ce qu'ils cherchent et se tailler une sorte de discothèque idéale. Car ce livre, il se lit avec un bouquin dans la main et avec une appli de musique en ligne dans l'autre. Tant il donne envie d'entendre et de réentendre les disques qui y sont référencés, tout comme les pochettes de disques qui sont reproduites. Ces pochettes de disques, d'ailleurs, tout comme les photos d'époque, sont de savoureuses surprises contenues dans ce livre. Il en est de même pour le lexique qui permettra de parler le salsero langue vivante incouramment. Ainsi, les termes clave, montuno, charanga et autres guiro n'auront plus de secrets pour vous et vous permettront de briller en société. Le livre de la salsa de César Miguel Rondon, traduction par Maxime Bisson, s'est paru aux excellentes éditions Alia. Ce livre vous étourdira au long de ses 624 pages et il vous en coûtera 28 euros.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Nous vous présentions deux disques disponibles depuis le 9 février. What Happened to the Beach par Declan McKenna chez Temple Cattle Records et le premier disque éponyme d'Astral Baker chez Sage Music. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les artistes soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.